Le prix Goncourt 1987 a été attribué au sixième tour de scrutin à Tahar Ben Jelloun pour la nuit sacrée.
C'est historique, je pense. C'est la première fois qu'un arabe en France a une consécration aussi importante et je pense qu'elle touchera probablement toute la communauté maghrébine en France et au Maroc et au Maghreb. C'est un travail de lien et d'intermédiaire je dis le Maghreb à la France et je dis la France aux Maghrébins, donc je suis un peu entre les deux rives, entre les deux cultures.
Paradou.
1987-2023, plus de 35 ans sont passés et Tahar Ben Jelloun continue à être ce symbole d'une littérature française qui s'élargit au monde et ce passeur infatigable entre les cultures en cette semaine de la langue française. Et alors qu'il publie un nouveau roman, Les Amants de Casablanca, Tahar Ben Jelloun est aujourd'hui notre invité, j'ai envie de dire notre grand témoin. Bonjour Tahar Ben Jelloun.
Bonjour.
Entendre cette archive provoque quoi chez vous ?
Oh, je la connais par cœur. Non, en même temps, ça me rappelle que des bons souvenirs, des souvenirs émouvants. Et puis, maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière, chaque année, quand on décerne le prix Goncourt, quand je vois arriver le candidat, je me mets à sa place, je dis, tu vas vivre des moments extraordinaires. Et c'est unique au monde, hein. Il n'y a pas un autre pays au monde qui a un prix littéraire, qui suscite tellement d'intérêt médiatique, populaire et tout. Et ça, c'est formidable. Et je crois qu'en plus, l'Académie s'est ouverte à partir de... avec moi, s'est ouverte aux écrivains dits francophones, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas de français de souche. André Makine, Amin Maalouf, Leila Slimani, Atik Rahimi, etc.
Oui, le prix Goncourt ne fait pas toute la littérature française, mais est-ce que vous diriez que cette date de 87, ce mois de novembre 87, est un marqueur, l'ouverture à la francophonie?
Ben forcément, parce qu'avant, il ne s'intéressait pas beaucoup à tous ces écrivains. Il a fallu quand même le travail méticuleux que faisait Edmond Charleroux, qui avait une passion pour le Maghreb et pour la langue française, bien sûr, pour faire venir un peu d'intérêt pour ces écrivains. Évidemment, si on avait pu donner le prix Goncourt à Kateb Yassine ou à Aimé Césaire, bon, ça aurait été extraordinaire. Mais bon, on les a ratés. Bon, Aimé Césaire était un poète, mais quand même.
Vous avez cité quelques auteurs qui ont eu le prix Goncourt, ou quelques autrices qui n'étaient pas forcément nées sur le territoire français tout en écrivant en français. Le mot francophonie continue à faire peur, je trouve, ou continue à créer des réticences en
ambigu,
France.
Il est ambigu, parce qu'on se dit pourquoi les Anglais qui ont le Commonwealth n'ont pas d'anglophonie ? Ils n'en ont pas besoin. Parce que les gens parlent cet anglais minimal, hein. Ben, c'est pas l'anglais de Shakespeare, hein. Mais au contraire, le français est parlé et écrit par des Africains, des Canadiens, des Belges, des Suisses, des Arabes, des Asiatiques, enfin, bref, dans le monde entier, avec une certaine qualité. C'est-à-dire, parfois, je ris parce que quand j'entends parfois certains Africains parler le français ancien, c'est magnifique, c'est faux. Et ils maintiennent la tradition de ce français universel. Et moi, je préfère dire français universel plutôt que francophonie parce que nous aimons cette langue, mais nous ne voulons pas être catalogué dans le processus politique de l'Afrique, la France, tout ça, on n'aime pas beaucoup ça.
Alors c'est vrai que le mot francophonie est toujours un peu délicat à utiliser. C'est une langue commune sur les cinq continents.
C'est une langue commune et différente de pays en pays. Les Québécois ne parlent pas comme les Belges, ni comme les Libanais, et ainsi de suite.
C'est une langue commune, mais elle est quand même contestée. Actuellement, en Afrique, par exemple, elle est de plus en plus considérée comme une langue du dominant, de l'ancien colonisateur, rejet de la France,
oui,
de la langue. Enfin, vous voyez,
mais là, en
c'est de la diplomatie.
Politique, oui. Ce qui est dommage. Il faut dire une chose, c'est que Mitterrand avait donné beaucoup d'importance à Chirac aussi, à la francophonie. les autres présidents qui sont venus après ont un peu négligé. Et aujourd'hui, même si Léla Slimani est en poste, enfin, en principe, pour la promotion de la francophonie, elle est là, elle est bénévole, elle fait bon, ben, c'est pas important comme poste. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui serait bien, c'est que on puisse considérer cette langue dans sa diversité, dans toutes ses couleurs et ses épices, comme appartenant à la France et aux Français et au monde entier. C'est ça qui est intéressant. Mais bon, les politiques donnent moins d'importance à ça.
Tahar Ben Jelloun, vous, l'enfant de Fès, vous avez toujours considéré le français comme votre langue ?
Ah, bien sûr, parce que bon, ben, j'ai ouvert les yeux sur cette langue, même si à la maison on parlait arabe, et mon père me dit, il faut apprendre le maximum de langues. Et j'ai appris l'espagnol ensuite, je considérais que l'arabe était acquise, et après le français et l'espagnol, et plus tard l'italien. Mais je considère que les langues, ce sont les amitiés qu'on noue avec des peuples. C'est formidable d'arriver dans un pays et puis parler leur langue, c'est formidable. Avec l'anglais, j'ai un blocage, j'y arrive pas.
Mais c'est une question d'amitié ou d'amour ? Parce qu'on parle souvent de l'amour de la langue française.
Oh, l'amitié, parce que l'amour, c'est un peu trop fort. En France, oui, effectivement, c'est une langue que j'aime. Parce que, vous comprenez, c'est une langue avec laquelle j'exprime mon Maroc profond, qui est arabe, berbère, différent. Mais grâce à cette langue, j'ai pu raconter beaucoup le Maroc. Depuis une quarantaine d'années, tous les romans que j'ai écrits, tous les livres que j'ai écrits sur le Maroc, ou à partir du Maroc, passent par la langue française. Et c'est formidable. C'est une espèce de voie lactée magnifique pour un écrivain. La langue, c'est une patrie. C'est une patrie, c'est un pays. C'est pas uniquement une langue véhiculaire. C'est un monde, un univers. Et évidemment, j'adore par exemple Sacha Guitry. Je regarde très souvent encore ses pièces de théâtre ou ses textes. Pourquoi ? Parce que Sacha Guitry ou Michel Audiard, pour être plus moderne, travaillaient la langue. Il avait des trouvailles fantastiques de beauté, d'intelligence. C'est succulent, c'est formidable d'écouter ça. Évidemment, je parle des gens comme ça, mais quand on lit Céline, c'est autre chose. C'est fabuleux. Mais en même temps, malheureusement, Céline a donné beaucoup, des milliers de sous, Céline. Et ça, c'est malheureux, ça. Mais Céline, évidemment, Marcel Proust, moi, je le lis comme un gâteau. De temps en temps, je prends une corne de gazelle, pas une madeleine, mais un corne de gazelle, et je lis 10 pages de la recherche, et je suis heureux.
Tahar Ben Jelloun, donc, la langue est une histoire d'amitié, mais vous aimez aussi les histoires d'amour. Il en est question dans votre nouveau roman. Il en est question aussi en chanson, Tendance Rail, avec Joan Papa Constantino.
Pourquoi bébé tu cries? Y'a trop pris dans ma vie. Pourquoi tous ces soucis? J'fais ça pour la famille. Pourquoi bébé tu cries? Arrête ça, je t'en prie. Pourquoi tous ces soucis? J'fais ça pour la famille. Mon amour, mes amours. Je lui donnais alors, c'est pas une question de sous. On essaie de rester courtois, je regarde pas trop derrière moi. Dans sa tête le doute se déploie, sur son visage ça ne se voit pas. Tu cries, y'a trop pris dans ma vie. Pourquoi tous ses soucis. J'fais ça pour la famille. Pourquoi bébé tu cries? Arrête ça, je t'en prie. Pourquoi tous ces soucis? J'fais ça pour la famille.
Johan Papakonstantino, ici en duo avec Drea Duri sur RFI, et c'est un extrait de son album Premier Degré. Tahar Benjelloun, il est aussi question d'amour dans votre nouveau roman Les Amants de Casablanca. Un amour qui commence bien, mais le roman commence mal.
Et ça se termine bien.
Et ça se termine bien. Enfin, bien. Bon, oui, bien.
Ah ben oui, bien sûr.
Oui, oui, bon.
Non, c'est une belle histoire d'amour. Parce que beaucoup de mes amis disent, bah, raconte-nous une histoire d'amour. Comme j'ai passé beaucoup de temps, il y a 2 ans, pendant le confinement à Casablanca, où j'étais dans des soirées, je regardais, j'ai observé beaucoup. Et j'ai vu quand même l'évolution de cette société casablancaise, disons plutôt bourgeoise que prolétaire, et comment un peu l'évolution des mœurs se faisait, et effectivement, là, surtout l'émergence des femmes qui ont du pouvoir, qui décident d'être libres, indépendantes, autonomes, et ne supportant plus la domination masculine. Et ça, c'est quelque chose de très impressionnant, et j'ai voulu raconter ça, raconter l'histoire d'un couple où la femme... Bon, au départ, bien sûr, c'est une histoire d'amour, mais on se rend compte que la femme gagne beaucoup plus d'argent que l'homme, a plus de possibilités, a de l'ambition, etc. Et lui, c'est un bon médecin, un pédiatre qui s'occupe humainement de son travail, il ne fait pas payer tout le monde, etc. Mais il y a un déséquilibre financier qui va déséquilibrer le couple.
Mais je dis que le roman commence mal parce qu'il divorce. Tout de suite.
Oui, il divorce.
10 ans après le mariage.
C'est l'occasion... pour démontrer que dans un divorce, le drame se joue sur des petites mesquineries que tout le monde a connues un jour. Le partage des biens, le partage des espaces. Alors évidemment, la maison, la villa, la belle villa qu'ils ont construite, ben, le terrain appartenait au père de la fille. Donc, le mari n'avait rien apporté. Et il a apporté un petit peu pour la construction. Et avec le notaire, ils ont calculé qu'il avait 18 ou 20% de l'espace. Il va avoir un petit coin de la villa. Mais tout ça, c'est des choses qui arrivent quotidiennement.
Un homme, une femme, ça fait un peu Claude Lelouch, hein, ce que je vous dis, mais je fais un clin d'œil au personnage, parce qu'il cite beaucoup de titres de films et aussi beaucoup de romans, ce Nabil, parce que c'est un homme assez cultivé, mais finalement... assez traditionnaliste.
Il ne veut pas lâcher la tradition parce que son identité se retrouve bien là-dedans. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a été très fortement influencé par la culture occidentale, par ses lectures, par ses films. Et il voulait toujours amener sa femme à lire. C'est un peu son combat. Alors, il lui donne Belle de Seigneur, bon, elle lit 10 pages et elle l'abandonne. Après, il lui donne L'Amant de Duras, elle le lit, mais enfin péniblement. Mais en même temps, il voulait en faire une lectrice. Parce que pour lui, la lecture, c'est essentiel. Et ça, parce qu'au Maroc d'aujourd'hui, les lecteurs sont de plus en plus rares, malheureusement. C'est à peu partout la même chose. Mais ce sont les femmes qui lisent, comme en France. Et la lecture souffre en ce moment. Souffre. Et lui, pour lui, il voulait qu'elle lise. Pourquoi ? Parce que lire, c'est une façon d'entretenir d'abord le couple, et le dialogue et tout, et de s'ouvrir sur notre monde.
Mais il ne réussit pas vraiment, parce que si elle ne lit pas l'amant, en revanche, elle prend un amant. Puisqu'elle est infidèle, riche et infidèle.
Elle prend un amant, c'est pas aussi simple. Alors au Maroc, pour une femme de la bourgeoisie marocaine, prendre un amant, c'est pas simple du tout, mais elle va tomber comme quelqu'un, enfin un coup de foudre, va tomber comme raide devant un beau gosse, un bel homme, dans le métier presque.
Oui, c'est un vil séducteur quand même.
Un grand séducteur,
un
avec
don
la
Juan.
Voiture qu'il faut. Tous les clichés sont là.
Tous les clichés, oui.
La Porsche, la gourmette, le bronzage, l'appartement ultramoderne, les restaurants, enfin bref. Elle tombe là-dedans et elle vit une passion fantastique pendant 6 mois. Et il y a une phrase terrible dans le roman. À un certain moment, elle arrive, tout en larmes, et son mari lui dit « Mais pourquoi tu pleures, ma chérie ? Il m'a quitté et je te quitte. »
Parce que tout d'un coup, elle ne supporte plus son mari,
Ben oui, forcément, qui est un peu trop... découvert autre chose.
Voilà, elle a découvert autre chose, il est un peu lourd, il est un peu pâteau, il est un peu...
Le pauvre, il va...
il n'est pas très bon amant, en plus.
Alors, mais en même temps, c'est très fréquent, cette... Quand on a quelqu'un d'infidèle, que ce soit un homme ou une femme, ils se disent toujours que c'est meilleur qu'avec la régulière ou le régulier. Vous comprenez ? C'est ça, c'est toujours comme ça. Parce qu'aller ailleurs, c'est toujours... elle est plus verte, l'herbe. C'est normal.
Ça s'appelle le désir. Mais alors, sans tout raconter, Tara Benjelloun, ce couple se sépare, ils divorcent, ils vont se remarier chacun de leur côté. Mais il y a quand même toujours cette question dans le roman. Est-ce que le premier amour est le dernier ?
Ben, c'est le titre d'un de mes livres... que je traîne avec moi et qui est un petit best-seller en Chine. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. J'étais en Chine, je ne parlais que de ce livre. Parce que les Chinois, ils sont très romantiques, ils aiment bien les histoires d'amour, etc. Ben, je le pense parce que quand on est jeune, on découvre la première relation, on est dans les premiers émois. Et ça marque, sauf si on est un séducteur collectionneur, ça marque et on essaie toujours de retrouver ses premiers émois.
Mais l'homme Tahar Benjelloun répond quoi à cette question ? Parce qu'il peut s'agir d'amour, mais aussi peut-être d'amitié, de pays, de paysage, de terre.
Oui, bien sûr. C'est pas le dernier. Mon premier amour n'a pas été le dernier, heureusement. Mais j'ai parfois une petite nostalgie de ces années. J'avais 16-17 ans. C'était extraordinaire. Bon, c'est une vieille histoire, mais je la fantasme, je l'embellis dans mon souvenir. Mais la réalité devait être certainement différente.
Tahar Benjelloun, ce roman, Les Amants de Casablanca, se passe dans cette ville moderne et tentaculaire qui est incarnée par d'autres personnages. Il y a notamment ce Hakim, chez qui Nabil va parfois se réfugier.
Ah, le séducteur professionnel.
Le séducteur professionnel, lui aussi. J'aimerais que vous nous lisiez un court extrait de votre roman où il est justement question de Hakim.
En le fréquentant, on a une image de ce qu'est le Casa des années 2000. Fric, égoïsme, schizophrénie, double discours, double visage, drame caché et histoire muette de femmes libérées, vivant seules et parfois malheureuses. Ces femmes qu'il fréquentait faisaient peur à la société bien établie. Imaginez une femme, la trentaine, indépendante financièrement, ayant fait des grandes écoles au Maroc et à l'étranger, de famille plutôt aisée, mal mariée et vite divorcée, cherchant à vivre comme une Européenne qui n'a de compte à rendre à personne. Une Marocaine d'un type nouveau qui réclame ses droits et les prend sans hésiter. Bref, une femme quasi égale de l'homme, sauf qu'elle est plus courageuse et aussi plus cruelle quand celui-ci fait preuve de lâcheté. Ce genre de femme, encore rare, émerge et essaie de se faire respecter malgré les traditions, les mauvaises habitudes d'une société gouvernée par l'hypocrisie, les convenances et la peur du qu'en dira-t-on. Ce sont ces femmes qui se précipitaient dans les soirées bien arrosées de Hakim. Il les connaissait bien et il lui arrivait de les consoler quand, vers la fin de la fête, la déprime les prenait.
Tahar Benjelloun, vous n'êtes pas tendre avec la société marocaine, on vient de l'entendre dans cet extrait.
Le rôle d'un écrivain, c'est de ne pas être gentil. La littérature de la gentillesse n'a aucun intérêt. La littérature, c'est de dire les choses qui ne vont pas. C'est les failles, c'est les manques, c'est les blessures. Évidemment, si on veut un roman où tout se passe bien, ça n'a aucun intérêt. Et aimer un pays, une société, c'est être vache et être très critique, parce que sinon je serais honte de ça, de mon rôle d'écrivain témoin de son époque.
Mais une société de l'hypocrisie, c'est quand même dur. Est-ce que toute la société
pas toute
marocaine...
la société, mais ce qui frappe les mentalités quand on arrive au Maroc comme ça, c'est par exemple, vous pouvez tout faire, mais il ne faut pas le faire savoir. Par exemple, on dit, on tolère l'homosexualité, mais il faut pas non plus la revendiquer publiquement, ni se montrer, etc. On ferme les yeux. Mais c'est la même chose pour la religion. Bon, on s'abstient de boire pendant le ramadan, mais on reprend la boisson 3 jours après, donc après la fin du ramadan. Donc c'est cette espèce de décalage entre le réel et les aspirations d'une société, c'est intéressant.
Mais c'est dû à quoi ? On va dire les traditions, mais c'est quoi les traditions ? C'est la famille, c'est la religion ?
Les traditions, c'est les liens de la famille, le respect de la religion, le respect des coutumes, et puis il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Bon, évidemment, on tolère certaines choses, mais à condition de ne pas être exhibitionniste dans la société. Il ne faut pas choquer la société, il ne faut pas la provoquer.
Mais dans votre roman, l'un et l'autre souffrent de cette société. L'un et l'autre sont malheureux.
Ils souffrent, mais ils s'adaptent. Ils sont arrivés de France après avoir passé 5-6 ans en France dans la liberté totale. Ils arrivent au Maroc, ils se marient, mais ils s'adaptent à la société. Ils vont tous les vendredis manger du couscous chez les parents. Et ils respectent les convenances sociales, etc.
Il y a une scène qui est terrible dans le roman, dans votre roman, Tahar Ben Jelloun, Les Amants de Casablanca. C'est quand Lamia, c'est à la fin du roman, quand Lamia se fait agresser par une autre femme dans la rue qui lui reproche d'être une femme infidèle. Elles ne se connaissent pas, mais elle le sait et elle l'agresse.
Ben, tout se sait dans les hammams. Tout se sait, finalement, rien ne se cache. Et on juge les gens, on se permet de juger les autres. C'est ça qui est insupportable. Évidemment, c'est une scène qui a existé dans la vie. L'autre scène qui a existé, c'est des serveurs dans une soirée qui, tout d'un coup, refusent de servir l'alcool parce que, d'après le Coran, est interdit de boire et aussi de porter des bouteilles d'alcool pour les autres.
Mais donc, ça, c'est la montée d'un radicalisme religieux.
Ah, bien sûr. Au Maroc. Malheureusement, on a eu 10 années de partis islamistes au pouvoir qui ont menacé la société avec une rigueur, d'ailleurs tout à fait hypocrite, une rigueur artificielle. Parce que le Marocain, il aime bien vivre. Il n'aime pas être censuré, il n'aime pas qu'on l'empêche de bien boire, de bien vivre, tout en étant bien sûr dans certaines limites, modération.
Donc la question des femmes est centrale dans la société marocaine, elle est centrale aussi dans votre roman. C'est ce que Leïla Slimani, autre prix Goncourt, a soulevé aussi dans un essai paru en 2017 et intitulé « Sexe et mensonges, la vie sexuelle au Maroc ».
Ce qui est terrible, c'est que moi je me suis rendu compte, en rencontrant aussi des féministes d'autres pays, en discutant de ces questions, que de toute façon le corps de la femme est un champ de bataille dans le monde entier, mais que ce qu'il y a d'autant plus horrible, c'est quand vous avez le sentiment, en tout cas ces femmes-là ont le sentiment que la société ne peut leur être d'aucune aide, que la loi ne leur est d'aucune aide, que les institutions, les pouvoirs publics ne sont pas là pour les protéger, pour les défendre aussi lorsqu'elles ont besoin de se défendre. Et donc j'ai eu le sentiment chez ces femmes d'une immense solitude.
Mais il y a pire que ça, Leïla, c'est la question, est-ce que les femmes marocaines, dans leur grande majorité, sont pour ou contre la liberté sexuelle ?
Mais c'est très difficile à dire, c'est-à-dire que quand vous posez la question de manière générale, comme de manière théorique, et que vous demandez est-ce que vous êtes pour l'abrogation de ces lois et la mise en place de la liberté sexuelle, la plupart des gens vous disent non. Parce que culturellement, dans l'éducation, dans la façon de voir le monde, du fait aussi que, on est un pays qui a son histoire, qui a ses traditions, qui a sa façon aussi de voir l'organisation sociale, qui est différente d'autres pays. Ils considèrent que non, que ce serait développer l'anarchie, l'anomie, que ça créerait le désordre.
Tahar Ben Jelloun, ce que raconte Leïla Slimani au micro d'Yasmine Chouaki, c'est aussi au cœur de votre roman. C'est-à-dire les choses ne bougent pas tant que ça.
C'est la même société, oui, elle a observé la société marocaine du point de vue de la sexualité des femmes, et bien sûr. Et en même temps, il y a des pesanteurs qui sont maintenus par un islam rigoriste mal compris. Et en même temps, il y a au Maroc, il y a une volonté, une ambition de modernité, de démocratie.
Le statut des femmes a changé en 2004.
Il a changé,
le divorce est possible maintenant.
Oui, il a changé, mais pas assez à mon avis. Et puis, il y a deux articles de loi qui sont scandaleuses, qui interdisent les relations sexuelles avant mariage. Vous rendez compte qu'aujourd'hui au Maroc, les mœurs sont totalement libérées. Mais la police peut un jour intervenir et mettre en prison un couple non marié qui va faire l'amour. Ou alors l'homosexualité aussi est interdite. Et ça, c'est contradictoire avec la réalité. La réalité n'est pas là. La réalité, les gens s'aiment, font l'amour, et les homosexuels ont le droit d'exister et de vivre.
Dans votre roman, vous le dites très bien d'ailleurs, Tahar Ben Jelloun, ce personnage Lamia, elle aime le sexe, elle utilise parfois des sextoys, elle le dit, mais vous rajoutez, on ne dit pas ça au Maroc.
Ah ben oui, c'est caché. C'est du domaine de l'hypocrisie générale. On ne dit pas ça.
Mais alors du coup, comment vous êtes perçu, vous, Tahar Ben Jelloun, dans votre pays, comme un écrivain totalement amoral qui justifie l'infidélité et la sexualité débridée ?
Ben, je ne sais pas, après ce roman, je verrai. Je vais aller le présenter à... au Maroc bientôt, je vais voir comment ils vont réagir. Mais en général, ils me reprochent de parler de sexualité et de dire certaines choses qu'ils n'aimeraient pas voir. C'est un peu toujours le système de... Pas la peine de dévoiler certaines choses. Non, moi, c'est mon rôle. C'est mon rôle d'écrivain.
Mais vous y allez fort, si j'ose dire, dans ce livre.
Il le faut.
Le fait d'écrire en français, est-ce que ça vous donne plus de liberté ?
Certainement. Certainement, parce que la langue arabe, que je ne maîtrise pas assez pour écrire un roman, eh ben, c'est la langue du Coran, c'est une langue difficile, magnifique, très belle langue. Mais le fait d'écrire dans une langue étrangère me donne des libertés. J'ai appris ça en lisant d'ailleurs Beckett et Kafka, qui se sont exprimés dans une langue qui n'est pas la leur, et qui ont dit des choses qu'ils peut-être n'auraient pas pu dire dans l'autre langue.
Mais vous n'avez jamais écrit en arabe? Vous n'avez jamais eu cette tentation-là?
Texte, non. Je peux faire une conférence en arabe classique, comme je... Oui, je peux faire. Mais je n'ai pas écrit de texte de fiction ni de poème en arabe, non.
Cela dit, vous avez quitté le Maroc jeune prof, justement parce qu'il y avait une loi qui arabisait l'enseignement et vous ne vous sentiez pas en accord avec ça, quoi.
À l'époque, il voulait lutter contre les idées occidentales, donc la philosophie que j'enseignais aux jeunes adolescents, et ils ont arabisé l'enseignement de la philosophie en le remplaçant par la pensée islamique. Et donc, moi, je n'avais que faire de ce changement, parce que c'était un changement idéologique et politique scandaleux, qui a privé les Marocains de l'enseignement de la philosophie. Maintenant, ça revient petit à petit, mais bon, on a privé plusieurs générations de la philosophie.
Vous n'écrivez jamais en arabe, mais en revanche, vous traduisez certains de vos livres en arabe.
Non, je ne traduis pas. J'ai traduit un seul livre, c'est Le Pain Nu, de Mohamed Choukri, et j'ai traduit quelques poèmes de Mahmoud Derwish, et d'autres, non, je suis... La traduction, c'est un travail de création que j'ai fait une fois ou deux, mais non, je reste francophone à 100%.
Donc il n'y a aucune frustration de votre part?
Non, pas du tout.
Est-ce qu'un écrivain fait avancer la société en écrivant dans une autre langue et sur ce Maroc que vous dites être au cœur de votre œuvre? Et c'est vrai, depuis plus de 40 ans.
Évidemment que, c'est pas une avancée spectaculaire. Les idées passent, parce que les livres... Vous savez, mes livres sont lus depuis 40 ans, ils sont dans les écoles, on les étudie, et les idées passent, évidemment, les idées passent. Pas uniquement les miens, mais il y a beaucoup d'écrivains en arabe qui ont écrit des choses formidables, et les écrivains francophones aussi. Mais c'est un ensemble de choses qui fait évoluer une société, pas un seul. Je ne suis pas un héros. Mais si je fais mon travail, je le fais dans le sens critique pour faire avancer les choses.
Merci beaucoup, Tahar Ben Jelloun. Les Amants de Casablanca, votre roman sort dans quelques jours aux éditions Gallimard. Et merci en cette semaine de la langue française de nous avoir accordé cet entretien en avant-première.
Merci beaucoup.
De vive voix, Pascal Paradou, programmation Audrey Taïeb, Guillaume Ploquin à la réalisation, émission à réécouter sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux.